Bonjour. Le successeur de Frédéric Hénard au Conseil d'État neuchâtelois devrait être connu en ce début d'après-midi. Lors du premier tour de cette élection complémentaire, c'est le PLR Éric Grosjean qui avait recueilli le plus de suffrages. Mais le Vert, Patrick Erard, le talonnait de très près. Alexandra Richard et Anouk Henry, nos deux correspondantes à Neuchâtel, suivent cette élection de très près. Elles seront en direct dans ce journal pour nous livrer les premières tendances et peut-être déjà pour nous donner le nom du vainqueur. C'est cet après-midi à Dublin, le gouvernement irlandais réunit un conseil de ministres extraordinaire pour finaliser un plan de rigueur draconien. Ce plan est au centre des négociations marathon avec l'Union européenne et le FMI sur une aide internationale de dizaines de milliards d'euros. Nous serons en direct dans ce journal avec notre envoyée spéciale à Dublin, Francesca Argirofo. Ils ne veulent pas être chanteurs, ni acteurs, ni stars, mais un peu de tout ça. 47 jeunes artistes du cirque sont réunis dès aujourd'hui sous le chapiteau du Cirque de Noël à Genève pour un projet inédit conçu pour la télévision. Karine Swinney a partagé leurs rêves et leurs angoisses à l'heure des ultimes répétitions. Haïti vit au rythme des affrontements et des violences depuis quelques jours. En cause, l'épidémie de choléra qui ravage l'île et dont les habitants accusent les casques bleus d'en être à l'origine. Invité de haute définition, l'écrivain Lionel Trouillot, rencontré avant l'épidémie par Manuela Salvi, tente un état des lieux de ce pays traumatisé. Haute définition, c'est dans une dizaine de minutes. Pas de pluie au programme de cet après-midi, mais pas beaucoup de soleil non plus, mis à part en Valais. Entre 6 et 8 degrés prévus sur le plateau. Demain, retour des précipitations. Prévision complète de Sébastien Dupé. Juste avant 13h. Et tout de suite, direction Neuchâtel, où on connaîtra d'ici peu le successeur du conseiller d'État Frédéric Hénard, démissionnaire. Les premiers résultats du second tour de l'élection complémentaire au conseil d'État viennent de tomber. Anouk Henry, vous êtes en direct du château de Neuchâtel. Alors lequel, du libéral Thierry Grosjean ou du vert Patrick Erard, est en tête ?
Alors c'est pour l'instant Thierry Grosjean qui est en tête, ceci alors que 12 communes sur 53 ont fourni leurs résultats. Il compte à l'instant 3155 voix contre 2006 pour Patrick Erard, soit un écart important de plus de 1000 voix. Mais c'est un résultat très partiel car on attend encore les résultats des villes qui vont peser lourd dans cette élection, en particulier celle des montagnes qui devrait favoriser le chaudfonnier Patrick Erard.
1000 voix d'écart pour l'instant, pourtant on s'attend à un résultat final très serré à Anouk Henry.
Oui, comme vous l'avez dit au premier tour, les deux favoris n'avaient que 200 petites voix d'écart. Thierry Grosjean devançant de justesse et à la surprise générale, l'unique candidat de la gauche. À quelques heures de l'élection, les responsables de partis de gauche comme de droite n'osaient pas faire de pronostic. C'est que mathématiquement, les voix des candidats non élus au premier tour se reporteront majoritairement sur le libéral radical. Mais il faut tenir compte d'une autre donnée, c'est l'augmentation de la participation très faible au premier tour, c'est-à-dire 32%. Elle était à 33% hier soir. Chaque point supplémentaire devrait donc favoriser l'écologiste. Des calculs d'épicier qui ne permettent pas de tirer de conclusion pour l'un ou l'autre des candidats. Le verdict final tombera donc seulement une fois les résultats des villes de Neuchâtel, du Locht et de La Chaux-de-Fonds seront connus, ceci d'ici environ une demi-heure.
Merci beaucoup Anouk Henry. Nous referons donc un pointage juste avant 13h sur cette élection complémentaire au Conseil d'État neuchâtelois. Novartis prévoit de supprimer des milliers d'emplois en Suisse également. C'est ce que révèle le journal Sonntag aujourd'hui. Selon un collaborateur du groupe que le journal dit bien informé, la mesure devrait concerner avant tout les emplois en Europe et aux États-Unis. Cette restructuration qui est annoncée après celle de Roche cette semaine vise l'optimisation des coûts dans toutes les divisions, Pierre Berset.
Restructuration massive pour Novartis, titre l'hebdomadaire Sonntag, en analysant la situation du géant de la chimie baloise. Des chiffres précis, il n'y en a pas encore. Joseph Jiménez, directeur général du groupe Pharma, évite encore de parler de licenciement. Les informations recueillies à l'intérieur de l'entreprise confirment qu'un plan est bien en préparation. Et ça ne sera pas une mesure cosmétique, confie cet informateur, mais un paquet de mesures d'économie qui sera quasi identique à celui de Roche. Principalement visé, le personnel de vente aux États-Unis et en Europe, mais aussi du personnel de production parmi les 86 sites répartis dans le monde. C'est encore trop. En 2007 déjà, le groupe Novartis avait entrepris un premier train de mesures d'économie avec la suppression de 2500 emplois, dont 500 en Suisse, ce qui lui a permis d'économiser plus d'1,5 milliard de francs. La porte-parole du groupe confirme un programme d'économie future, mais les précisions seront données dès que les sites stratégiques seront fixés. Il n'y aura pas forcément de fermeture de sites, précise-t-elle, mais éventuellement des ventes à des tiers. Près de 12 000 personnes travaillent pour Novartis en Suisse, principalement sur Bâle, plus de 400 personnes à Nyon et une centaine à Genève, autant à Saint-Aubin.
Pierre Berset, merci. En Israël, un tribunal a jugé coupable deux soldats de s'être servi d'un enfant palestinien comme bouclier humain pendant l'opération Plomb durci à Gaza, en l'obligeant à fouiller des sacs à leur place. Vos explications, vous êtes notre correspondante en Israël, Aude Markovitch.
Un tribunal militaire israélien a prononcé aujourd'hui la plus grave condamnation contre des soldats liés à la guerre à Gaza. Deux militaires ont été jugés coupables d'avoir utilisé un enfant palestinien comme bouclier humain. L'événement s'est produit dans le sous-sol d'une maison de Gaza où s'étaient réfugiés des habitants pour se protéger des bombardements. Les soldats chargés d'inspecter les lieux ont demandé à un enfant de 9 ans de fouiller des sacs qu'ils soupçonnaient de contenir des explosifs. Une pratique qui avait déjà été condamnée par la Cour suprême israélienne et qui est assimilée à utiliser un civil comme bouclier humain. Le tribunal militaire a infligé 3 mois de prison avec sursis aux deux soldats et les a rétrogradés. Israël, comme le Hamas, se sont mutuellement accusés d'utiliser des civils durant le conflit. Pour Israël, le mouvement islamiste palestinien s'est sciemment servi de bâtiments publics comme base pour ses attaques. Mais cette fois, c'est un tribunal israélien qui a relevé que Tsahal n'avait pas non plus respecté le droit humanitaire. Aude Markovitch, Radio Suisse Romande, Tel Aviv.
En Irlande, c'est cet après-midi que le gouvernement se réunit en urgence pour la finalisation d'un nouveau plan d'austérité qui devrait être dévoilé mardi. La pilule sera amère pour les Irlandais. Ce plan prévoit des économies de 14 milliards d'euros sur 4 ans. Le gouvernement, en pleine crise, est mis sous pression par le FMI, l'Union européenne et la Banque centrale européenne, actuellement à Dublin. Et Francesca Argirofo, cette aide massive à l'Irlande ne devrait pas se faire sans condition.
Oui, c'est vrai qu'il est certain que les instances internationales et européennes ne vont pas se lancer dans leur deuxième grand plan de sauvetage après la Grèce, qui devrait quand même leur coûter entre 45 et 90 milliards d'euros sans avoir de contrepartie. Nicolas Sarkozy, en marge du sommet de l'OTAN à Lisbonne, a dit s'attendre à ce que l'Irlande relève son impôt sur les sociétés, un impôt qui est le plus bas d'Europe et qui suscite bien des jalousies de la part de l'Allemagne et de la France. Mais l'Irlande ne veut pas en entendre parler. L'impôt sur les sociétés, c'est la seule carte que le pays peut encore jouer pour se sortir de ce marasme. Du coup, pour pouvoir passer d'un déficit de 32% à 3% du budget, c'est donc la population qui va devoir payer. Les mesures d'austérité sont draconiennes. Elles prévoient des coupes sévères dans les services sociaux, dans la santé, dans le secteur public, mais aussi des hausses d'impôts sur le revenu. Alors une fois que ce plan sera adopté, c'est-à-dire dès demain, et sous la houlette bien sûr des instances internationales, alors seulement le renflouement de l'Irlande par l'Union européenne et le FMI pourra se mettre en place, un renflouement qui vise le secteur bancaire en pleine déconfiture et qui fait l'objet d'un plan de restructuration séparé. Et là, on estime que pour maintenir certaines banques irlandaises à flot, il faudra entre 45 et 90 milliards d'euros, justement.
Et en tous les cas, Francesca Argirofo, cette présence des instances européennes et du FMI à Dublin a mis en crise le gouvernement irlandais.
Oui, parce que la population est absolument furieuse contre le système au pouvoir, contre les banques, contre les promoteurs immobiliers qui se sont enrichis sans aucune régulation, ce qui a mené à la bulle immobilière et au désastre économique qu'on connaît. Alors, cerise sur le gâteau, le Premier ministre a nié jusqu'à ces derniers jours avoir demandé une aide internationale. Il est considéré aujourd'hui comme un menteur. Il est désavoué par son propre parti. Et c'est vrai que les jours de ce gouvernement sont désormais comptés.
En direct de Dublin, Francesca Argirofo, notre envoyée spéciale, merci. C'est un pas significatif de la part du Vatican. Le directeur du programme UNUCIDA des Nations Unies pour lutter contre la propagation du virus a salué cette nuit les déclarations du pape sur le préservatif. Benoît XVI a en effet pour la première fois admis l'utilisation du préservatif dans certains cas, notamment pour se protéger de maladies telles que le sida. Il s'en explique dans un livre à paraître mardi. Mais pour le prêtre dominicain Antoine Lilon, fondateur de l'association Chrétien et Sida, cette prise de position du pape est certes importante, mais elle intervient tardivement.
Certains ont perdu beaucoup de temps, et en l'occurrence, les plus hautes autorités de l'Église catholique ont perdu beaucoup de temps, je le pense. Pour le moment, ça reste une arme essentielle contre la propagation du virus. Tous les responsables de santé publique raisonnables le savent, que dans l'enceinte du Vatican, on le dise, même si c'est un mot prudent. C'est un progrès très important. Si de telles paroles avaient été prononcées il y a 15-18 ans, je pense que la propagation du virus dans certains pays où les autorités catholiques ont une influence aurait été fortement ralentie. Donc je ne m'insurge pas lorsque j'entends des gens qui disent que l'Église catholique a eu des comportements qui sont criminels. L'ignorance, la non-écoute des résultats acquis par la science, dans ce domaine-là, sont criminels.
Propos recueillis par nos collègues de France Info. Et 47 jeunes artistes du cirque sont réunis dès aujourd'hui sous le chapiteau du Cirque de Noël à Genève. Ils sont suisses, russes ou encore français. Ils participent au Magic Circus Show, un projet inédit conçu pour la télévision, un spectacle coproduit par la RTS, cinq autres chaînes européennes. À quelques jours de l'enregistrement en public, les enfants âgés de 7 à 14 ans répètent leur numéro. Reportage Karine Suigny.
Je suis assistante d'un magicien et puis en même temps je fais un tout petit sketch. Une sorte de streetlist, mais bon, pas vraiment. Je m'appelle Malou Moreno Granda et puis j'ai 8 ans et demi. Je suis à l'école du théâtre Circule qui est à Tonnerre. Et puis c'est super parce que mon papa il fait du cirque, alors voilà quoi.
Je m'appelle Vincent Etet et je vais faire un homme instru, je serai dans un accordéon.
Et tu as quel âge ?
J'ai 12 ans et demi.
Ça fait combien de temps que tu fais du cirque ?
Là, je fais ma 4e année de cirque.
Et t'as fait quoi comme genre de numéro depuis 4 ans ?
J'ai beaucoup fait de machinois. C'est un mât, en fait, une barre. Puis on monte dessus, puis on fait des figures.
Damien Hautet, producteur exécutif du Magic Circus Show. Moi, ce qui me plaît beaucoup en fait dans cette aventure, c'est que on peut proposer au public en fait les différents types de cirque que l'on peut trouver dans tous ces pays en Europe. Je veux dire, la Suisse a une vision différente de celle du Portugal, par exemple. Et c'est ce mélange en fait de tous les mondes du cirque de ces différents pays qui m'a beaucoup plu au départ. Et puis c'était surtout aussi de pouvoir réunir des enfants pour créer un spectacle, un gala, mais pas un concours, parce que c'est-à-dire qu'on voit bientôt plus que des concours, concours de chant, concours de ci, concours de cela. C'est ce qui a beaucoup plu en fait à tous les coproducteurs, c'est qu'en fait on propose un spectacle et non un concours.
Le Magic Circus Show proposera 3 représentations publiques samedi et dimanche prochain, un spectacle qui sera diffusé sur la TSR le 30 décembre. Les élections en Haïti auront lieu dans une semaine. Le pays est ravagé par une terrible épidémie de choléra qui provoque la colère de la population. Invité de haute définition, l'écrivain Lionel Trouillot, rencontré le 20 octobre dernier en marge du sommet de la francophonie, donc avant l'épidémie de choléra.
Haute définition, Manuela Salvi.
Haïti parmi les vivants, c'était le cri des écrivains après le séisme. Aujourd'hui, comment refonder le pays ? État des lieux poétiques, politiques et littéraires. Avec vous, Lionel Trouillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, poète, une des grandes voix de la littérature haïtienne. Vous vivez à Port-au-Prince. À quoi ressemble la vie à Port-au-Prince 10 mois après le choc du séisme ?
Ça dépend déjà du milieu social auquel on appartient, parce qu'il ne faut pas se tromper sur la réalité. Haïtienne, c'est un pays d'inégalité sociale. Il y a des gens qui se cantonnent dans leur univers bourgeois ou petit bourgeois et qui vivent relativement bien parce qu'ils vivent les yeux fermés sur la réalité des autres. Mais il y a des gens des classes moyennes qui ont été fortement frappés par le séisme, mais comme rien n'est fait pour les aider en termes d'emploi, donc ce qu'on peut appeler la petite bourgeoisie, les défavorisés, les classes moyennes, ça va très mal. Quant au peuple des villes, ceux qui habitaient déjà les bidonvilles dans des conditions inacceptables, c'est l'enfer.
Certains ont dit que la plus grande catastrophe, c'était après le séisme.
Ah, je persiste à croire que la plus grande catastrophe, ça a été la gestion de l'après-séisme. Aussi bien par le gouvernement haïtien, si le gouvernement haïtien mérite le nom de gouvernement, que par la, entre guillemets, communauté internationale. On a assisté à des luttes d'influence de la part de l'international. On a assisté à ce que certains appellent l'ONGisation du pays. Donc je dirais par exemple qu'en matière de santé, il y a autant de politiques de santé aujourd'hui en Haïti que d'ONG s'occupant de la santé. Mais il n'y a pas une politique de la part du ministère de la santé publique, et quand bien même il y en aurait une, il n'aurait pas les moyens de l'appliquer puisqu'il est pauvre, alors que les institutions de l'humanitaire, elles, sont riches. Donc nous sommes dans une situation qui est terrible pour le gros de la population.
L'aide internationale a été importante. Hein. Il y a une vague d'empathie envers Haïti, mais il y a aussi, et vous le relevez bien, beaucoup de questions sur les intentions des donateurs. Aujourd'hui, c'est plutôt la résignation ou la colère ?
Un peu des deux. Un peu des deux, résignation, parce que la précarité est telle que les gens disent, moi j'ai entendu récemment des témoignages à la télévision dont un qui m'avait fortement touché, il y avait cet homme qui disait, on est abandonné, il y a ces ONG, même si on doute de leurs bonnes intentions qui nous aident quelque peu, mais en dehors de ça, il n'y a rien, donc il y a une part de résignation. Puisque
donc la population est encore dans l'urgence.
Oui, la population est encore dans l'urgence. Le problème, qu'on parle des écoles, qu'on parle de la santé, qu'on parle d'autres domaines de la vie, c'est qu'il n'y a pas de politique publique visant à la fois à satisfaire les besoins immédiats autant que possible et à transformer les rapports sociaux. Je persiste à dire que l'urgence, c'est une urgence aussi de transformer les rapports sociaux en Haïti. L'urgence, il faut qu'on arrête de penser ce pays comme une population et qu'on commence à penser ce pays comme un sujet historique, comme une société. Et je crois que le problème de l'humanitaire, et souvent de l'international de manière générale, c'est de penser à une population. Ce n'est pas une horde. C'est une société. Il y a des problèmes.
Horde, vous utilisez un mot très fort. Hein.
Ce n'est pas une horde, c'est une société. Il faut penser la transformation de cette société.
Vous évoquez la résignation. Est-ce que le mécontentement est aussi en train de monter dans les rues de Port-au-Prince, dans les rues d'Haïti ?
Ah oui, il y a du mécontentement déjà. Bon, il y a une forme de mécontentement très politique. Hein. Une bonne moitié de l'opposition qui a refusé de participer aux élections. Et je pense que l'abstention sera l'expression d'un mécontentement et surtout d'une non-confiance et dans le gouvernement et dans l'international. Il y a beaucoup...
Mais qui ne résoudra rien.
Qui ne résoudra rien, mais je pense que pour la population, c'est une façon de dire je ne serai pas le complice d'une mascarade dont je serai finalement la victime.
Dans une semaine auront lieu les élections, vous l'aviez dit, hein, élections législatives et élections présidentielles. Avec une image qui frappe, c'est le palais présidentiel qui est toujours en ruine, les édifices publics sont toujours en ruine. C'est l'image d'une vie politique encore en déliquescence.
Je ne sais pas si la vie politique est en déliquescence. Les institutions politiques sont en déliquescence.
Ça veut dire que le peuple a envie de refonder Haïti, de transformer Haïti. Il y a une conscience politique qui est là.
Qui prend naissance et qui cherche à se structurer et à trouver les cadres d'expression.
Mais le risque, vous le dites, hein, c'est un État écrasé par la présence internationale, mais le risque, c'est que cette communauté internationale valide toute élection qui aura un semblant de démocratie.
Ah, je pense que la communauté internationale est prête à valider n'importe quelle mascarade, parce que pour eux, ils ont un mot qu'ils aiment beaucoup dans la communauté internationale, c'est la stabilité. Alors la stabilité...
Mais c'est important.
Vous savez, la stabilité...
Pas dans n'importe quelle condition, mais c'est important.
La stabilité qu'ils prônent, elle produit quoi ? Elle produit de la mort, elle produit de la pauvreté, elle produit la déliquescence de l'État. Moi, je dis qu'Haïti, qu'on arrête de parler de stabilité, qu'on parle de progrès, qu'on parle de changement, qu'on parle de transformation.
Ça veut dire que le statu quo, pour vous, n'est plus possible. Mais qui va porter ce discours de la refondation d'Haïti ? Les écrivains ont donné de la voix après le séisme, vous avez donné de la voix, Dany Laferrière a donné de la voix en disant que la culture sauvera Haïti.
Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la formulation de Dany. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe non plus dans un folklorisme. Ce n'est pas la culture qui va nourrir le peuple haïtien. Ce n'est pas la renommée des écrivains ou des peintres haïtiens ou des musiciens haïtiens qui vont envoyer les enfants haïtiens à l'école.
Mais vous avez un rôle en tant qu'intellectuel.
Oui, je pense qu'il y a un rôle, pas seulement des écrivains, je dirais plutôt des intellectuels. Il faut en effet penser la transformation. Il faut regarder cette société en face. Et je pense que c'est le rôle des intellectuels d'attirer l'attention sur ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on ne peut plus accepter. Il y a trop de choses inacceptables dans la société haïtienne.
Donc vous souhaitez, Lionel Trouillot, une transformation en faveur du plus grand nombre ?
Forcément. Forcément. Vers l'établissement de ce que j'appelle, après certains sociologues, une sphère commune de citoyenneté. Vers une république fondée sur l'équité.
J'ai donné la parole à la société civile aussi.
Donner la parole à la société civile, mais il est arrivé aussi que la société civile soit affaiblie par des divisions, puisque la bourgeoisie haïtienne, Haïti, ce n'est pas son pays, c'est son commerce. Donc l'intégrer dans la société civile, c'est pas forcément la solution. Quand on parle de société civile en Haïti, de quelle société civile parlons-nous?
Là aussi, il faut la reconstruire.
Tout à fait. Mais cela dit, je pense qu'il y a des démarches de la part des intellectuels, de la part des jeunes dans les milieux urbains en tout cas, qui sont extrêmement intéressantes, comme je vous le disais, les stratégies de regroupement, déjà la volonté de s'asseoir et de discuter. Et de poser les bonnes questions aux politiques. Parce qu'aujourd'hui, là encore, si on revient à ces élections ridicules, on dirait que le politique haïtien ne représente rien.
Ou lui-même.
Enfin, il représente lui-même, évidemment. Mais on ne voit pas le désir de transformation sociale. On ne peut pas dire que c'est orienté vers la transformation de la situation de la paysannerie, qui est quand même le pilier d'Haïti. On ne voit pas pourquoi ils se battent. Quels sont les vrais enjeux de société?
Votre rôle, c'est d'écrire, hein, Lionel Trouillot. Vous êtes écrivain, vous êtes poète. Vous avez d'ailleurs écrit des textes magnifiques dans Haïti parmi les vivants, publié en mai chez Actes Sud, des textes écrits dans l'urgence du séisme, et beaucoup de pudeur, beaucoup de respect. Vous l'avez dit tout à l'heure, loin du vacarme et du misérabilisme. Votre rôle, c'est écrire. Vous allez plus loin, vous avez envie d'aller plus loin qu'écrire, jusqu'à l'engagement politique.
Je ne sais pas si c'est mon rôle d'écrire, disons que c'est ma...
Votre
c'est
métier, c'est ma, votre vocation.
Ou ma passion, ou mon symptôme. Donc, je m'exprime par là, mais je pense aussi qu'il y a une responsabilité communautaire. Je ne sais pas s'il faut aller directement à la politique. De toute manière, toute entrée directe dans la politique qui est fondée sur une intention personnelle et qui n'est pas fondée sur un projet collectif porté par une organisation politique tourne forcément à la catastrophe. Mais je pense qu'il y a une responsabilité que ceux qui ont eu la chance... Haïti m'a beaucoup donné. Haïti m'a beaucoup donné. Je pense que j'ai quelque chose à rendre, quelque chose à restituer. Et heureusement, je crois qu'il y a un nombre croissant d'intellectuels haïtiens qui partagent ce point de vue. Il y a quelque chose à restituer à cette société. Voilà, je suis en Suisse, je fais un peu le tour du monde, on lit mon œuvre, et tout cela est fondé aussi. Parce que, comme Haïti, c'est parfois une curiosité, tout cela est aussi fondé sur...
Un exotisme, parfois aussi, que vous regrettez.
Donc je pense que c'est rendre justice, déjà, quand je prends la parole sur une station de radio, ou dans un colloque, ou dans une quelconque rencontre, de dire la vérité, de dire des choses qui éclairent sur la situation de la communauté des Haïtiens. Déjà, et ensuite, en tant que citoyen haïtien vivant en Haïti, je pense qu'il est quand même de mon devoir de citoyen d'essayer de participer à la réorganisation de la vie sociale, donc à la transformation de la société.
On vous a bien compris, hein, Lionel Trouillot, vous insistez sur la nécessité de transformation, de refondation d'Haïti. D'ailleurs, de nouveaux textes vont être publiés dans quelques semaines pour refonder Haïti, après l'urgence, la refondation.
Oui, la question de la refondation, alors ça sera refondation avec un point d'interrogation, parce qu'on peut aussi interroger la notion de refondation.
C'est avec pas, qui et comment?
Mais c'est pas Haïti qu'il faut refonder, c'est l'État haïtien. Parce que la naissance d'Haïti est quelque chose de très beau dans l'histoire du monde. C'est quand même l'une des grandes entrées dans la modernité.
C'est le premier pays à être devenu indépendant, oui, après l'esclavage.
D'ailleurs, c'est la seule victoire historique sur... C'est le seul État né d'une victoire sur le système colonial et esclavagiste. Et d'une vraie victoire. Donc, il y a cela maintenant, la question de l'État. Il y a l'après-révolution, l'après. Quand la société haïtienne a été mal gérée par les élites politiques et économiques après l'indépendance. Donc ce n'est pas une mise en question du point de départ, c'est une mise en question de ce qui a été fait après.
Et de l'héritage que cet après a laissé. Dans Haïti, parmi les vivants, Lionel Trouillot, vous dites que votre métier, c'est de raconter des histoires. Vous êtes écrivain, poète, haïtien, on le rappelle. Mais vous dites aussi, j'ai très peur de celles qui m'attendent.
Oui, il y a, si vous voulez, c'est des milliers de tragédies.
Haïti compte encore ses morts.
Haïti compte encore ses morts. Et déjà, il n'y a pas eu le respect dû aux morts dans la tradition haïtienne, parce que je pense que le gouvernement haïtien, il faudra toujours y revenir, même dans l'expression de la peine, même dans le travail de deuil, a été d'une incompétence. D'une incompétence... Il y a un mot en Haïti, le manfoubinisme. C'est-à-dire à partir de je m'en fous. Donc il y a un manfoubinisme de la part du président de la République et de l'ensemble du gouvernement vis-à-vis de cela. Donc oui, les morts sont extrêmement présents dans nos vies. Et surtout, le quotidien
vivre en Haïti. Là, je sors justement un petit livre, je mets des textes sur des photos prises par une journaliste en Haïti, et ça s'appelle « Le dur devoir d'exister ».
En Haïti, devoir d'exister. Hein.
Les gens affrontent au quotidien le dur devoir d'exister, et ils affrontent cela malgré tout ce que vous pouvez entendre. En général, c'est dans une grande solitude qu'ils affrontent cela.
Mais comment les morts vont-ils aider les vivants à reconstruire Haïti ?
Je pense qu'il y a un travail à faire au nom déjà des morts. Au nom des morts, les morts font partie... ils sont vivants avec nous, quelque part. Je pense personnellement à ce jeune homme qui était directeur de cabinet du ministre de la Culture, qui est mort dans les locaux même du ministère. Je pense à notre amie Valérie de l'atelier Jeux d'Histoire que j'anime. Je pense à l'atelier, nous avons repris l'atelier 15 jours après le séisme. Il faut continuer d'exister, il faut continuer d'exister, il faut continuer de se battre pour que les choses changent, à la fois pour les vivants et pour honorer les morts.
Ces morts-là, ces vivants-là encore, parce qu'il y en a encore beaucoup à Haïti qui ont ce dur devoir d'exister, vont-ils exister un jour dans des romans où c'est encore trop tôt? Il y a encore l'urgence d'écrire pour dire la réalité d'Haïti.
C'est deux choses. Moi, j'ai beaucoup de mal à mettre le tremblement de terre en fiction. Les mots que je pourrais trouver, les images que je pourrais trouver, même la situation que je pourrais inventer, ne peuvent pas rendre cela. Il y a une sorte d'impuissance, hein, l'impuissance du langage face à cela. Mais en dehors de mon travail de fiction ou de poésie, il y a un travail de réflexion à faire. Et ce travail de réflexion, je pense qu'il faut qu'on continue à le faire. Et je veux bien résolument y contribuer.
Donc vous êtes devenu, Lionel Trouillot, une sorte d'écrivain public au service d'Haïti?
Pour moi, les écrivains que je respecte sont quelque part des écrivains publics. Je pense au grand qui vient de mourir, à José Saramago. Et d'ailleurs, je pense que les politiciens haïtiens devraient lire le roman de Saramago, La Lucidité. Cette population qui va voter blanc face à l'incompétence ou des politiques. Pour moi, je ne suis pas du tout dans le mythe de l'écrivain démiurge qui, à l'intérieur de lui-même, a quelque chose à dire. Moi, je dis que je travaille avec le regard et j'essaie de poser dans les petits livres que j'écris des questions qui sont des questions de société.
Lionel Trouillot, merci.
C'était l'écrivain haïtien Lionel Trouillot que vous pouvez réécouter ce soir 22h40 sur la première dans une rediffusion de haute définition et quand vous le désirez sur internet hd.rsr.ch. Thierry Grosjean, bonjour.
Bonjour.
Félicitations.
Bonjour. Merci.
Vous venez donc de remporter cette élection complémentaire au Conseil d'État neuchâtelois. C'est fait, sauf erreur, 2500 voix d'avance sur votre rival, Patrick Hérard, Le Vert, vous confirmez?
Oui, je crois que c'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. Donc la droite reste au gouvernement neuchâtelois majoritaire. C'était pas acquis d'avance, hein?
Alors d'abord, c'était pas du tout acquis d'avance. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que cette votation là, j'ai tout fait pour, n'a pas été uniquement un combat droite-gauche. Je crois que les enjeux étaient tout à fait différents. Et si je suis très heureux aujourd'hui, c'est de pouvoir représenter, je crois, un certain rassemblement pour le canton de Neuchâtel au-delà du parti politique. Et sans ça, je ne serais jamais arrivé à ce résultat, je le dis et je le répète.
Eh bien, merci pour nous avoir confié vos premiers mots, votre première émotion. On vous remercie, on vous souhaite une bonne après-midi.
Reviendra. Merci et bon appétit à chacun.
Merci, on reviendra bien sûr sur cette information et cette élection que vous venez donc de remporter, vous, monsieur Thierry Grosjean, à l'élection complémentaire du Conseil d'État neuchâtelois. Encore à vous dire que le concert d'Evgeny Kissin, qui devait avoir lieu ce soir au Victoria Hall à Genève, vient d'être annulé. Car le pianiste russe est souffrant, les spectateurs qui ont acheté leurs billets peuvent se les faire rembourser, le concert est annulé. Et voici la météo de Sébastien Dupéret.
Une perturbation donne actuellement des précipitations sur la crête sud des Alpes valaisannes, mais au nord le temps devrait rester sec. Par contre, entre les passages nuageux d'altitude et les bandes stratus, les moments de soleil seront rares. Seuls le Valais et le Léman bénéficieront du développement de quelques belles éclaircies. Les maxima atteindront entre 6 et 8 degrés sur le plateau et 10 en Valais central. À 2000 mètres, il fait moins 2 et les vents de sud-ouest sont modérés en montagne. Demain, les précipitations toucheront essentiellement les Préalpes et les environs de Fribourg. Dans les autres régions, elles seront plus éparses. En Valais, elles resteront rares et quelques éclaircies pourront même apparaître. La limite plus neige passera de 1000 mètres en matinée à 600 mètres en soirée et les maxima seront compris entre 4 et 6 degrés. Cette tendance à la baisse des températures se confirmera mardi sous un ciel toujours nuageux. La neige pourra descendre jusqu'en plaine, mais les précipitations seront plus rares. Le maximum sera de 4 degrés.
La météo avec Viessmann, solution de chauffage et pompe à chaleur, chauffage-efficace.ch.
Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal de la mi-journée. Principale information, victoire de Thierry Grosjean à l'élection complémentaire au Conseil d'État neuchâtelois. Vous écoutez La Première, il est précisément 13h.